se passe-t-il dans mon quartier ? Chaque année, à Reims, les associations, les institutions mettent en place de nombreuses actions. Parfois, vous y participez, sans trop le savoir finalement. Parfois, vous êtes un bénévole actif. Et parfois, malheureusement, vous ne les connaissez même pas. Que se passe-t-il dans mon quartier ? Est une série radiophonique de 6 émissions qui vous fait découvrir des projets qui ont eu lieu durant l'année 2020 à Reims. Aujourd'hui, épisode 1. Les petits débrouillards, Utopia 758 et le groupe Pélican. Connaissez-vous les petits débrouillards ? Cette année, ils se sont promenés dans Reims. Promener, c'est un peu vite dit et injustement résumé. Ils ont installé des cités débrouillardes, en fait. Un beau projet qui mêle science et éducation populaire.
Alors, Laetitia Bernard, donc je suis chef de secteur en Champagne-Ardenne pour l'association des Petits Débrouillards Grand Est. Et je suis accompagnée de ma service civique à Lima, qui est arrivée au début de l'été, donc qui nous accompagne sur les activités estivales cette année.
Eh bien, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà peut-être ce que sont les petits débrouillards, nationalement peut-être, et comment ça se traduit ici sur le territoire à Reims ?
Alors, les petits débrouillards, c'est une association nationale qui est déclinée à peu près dans toutes les régions de France. Ici, sur le Grand Est, nous avons plusieurs antennes, dont deux en Champagne-Ardenne, donc une sur Reims et une sur Troyes. C'est donc une association qui consiste à faire de l'éducation populaire. Donc on travaille beaucoup dans les quartiers prioritaires. L'idée, c'est de travailler via les sciences pour développer l'esprit critique des jeunes, des plus petits, mais aussi du grand public.
Et ce projet de cité débrouillard, il a eu lieu à Reims, c'est un projet politique de la ville. Est-ce que vous pouvez du coup nous parler de l'envie qu'il y a derrière ce projet ? Vous nous disiez d'aller dans les quartiers populaires, de les initier à la science. Comment on s'y prend ? Comment ça se passe ? Et comment vous mettez ça en place, vous, dans les quartiers ?
Alors, on travaille avec la ville et les personnes qui sont responsables de dans les quartiers, les politiques de la ville. On travaille aussi en étroite collaboration avec les maisons de quartier. Donc ça fait plusieurs années qu'on fait ça sur Reims, donc l'antenne sur Reims a été créée fin 2018. Donc depuis on travaille avec la ville et on organise des semaines de cité débrouillarde. Donc c'est un dispositif qu'on met en place dans toute la France, toutes les antennes des petits débrouillards mettent ça en place. Cette année on a fait 3 semaines de cité, donc une au stade Géo-André, une au stade Marcel Thiel et une au parc Vankari-Mataille avec la maison de quartier Wilson. Cette année, c'était un peu spécial. Un été à Reims a été mis en place suite au confinement, au Covid, etc. Donc, on nous a demandé d'être présents sur ces manifestations-là les 2 premières semaines d'août. Donc, ce qui explique notre présence au niveau des stades et des gymnases. Donc là, cette année, c'était spécial parce qu'on a eu des semaines sur réservation. Donc, les enfants réservaient leur place pour l'après-midi avec nos animateurs. Alors que d'habitude, l'essence même des cités débrouillardes, c'est d'accueillir tout le monde à n'importe quelle heure, le temps qu'ils veulent, sur les activités qui leur font plaisir. Donc voilà, c'est ce qui va se passer cette semaine au niveau du parc Vankari-Mataille. Là, on travaille avec la maison de quartier qui a fait aussi un peu de com pour faire venir les enfants. Nous, on a aussi déposé des affiches au niveau du quartier. Donc l'idée, c'est que voilà, tout le monde peut venir. Donc cette année, c'est vrai qu'avec le Covid, on fait attention, on a moins d'enfants par table avec nos animateurs. Après, voilà, nos animateurs sont bien équipés, masques, gel hydroalcoolique, désinfectants pour nettoyer le matériel. Donc il n'y a pas eu de soucis, on a réussi à bien s'arranger avec la ville pour pouvoir quand même faire des manifestations parce qu'on a senti que de toute façon il y avait un grand besoin d'activité cet été. Donc voilà, ça s'est fait quand même dans des conditions un peu spéciales. Sur Reims, ça s'est plutôt bien goupillé. Sur d'autres départements, on n'a pas pu accueillir du grand public. On était vraiment que sur du fermé avec les centres de loisirs. Donc voilà, on a fait au mieux. J'espère que l'année prochaine, ça ira mieux. Mais voilà, cette année, c'était un peu une édition spéciale.
Voilà.
L'idée, l'idée, c'est que pour le quartier Wilson, on puisse accueillir le maximum d'enfants sur la semaine. Des enfants qui partent pas forcément en vacances, des enfants qui ont été coupés de leur scolarité pendant un bon moment avec le confinement, histoire de les reconnecter un petit peu avec tout ça. Là, cette année, on avait une thématique forestière, donc on travaillait beaucoup sur la forêt avec les enfants. On leur a appris à calculer l'âge d'un arbre, comment un arbre pouvait pousser, comment il se nourrit, comment il pousse, etc. Donc toute la semaine est animée avec des ateliers comme ça. Et à la fin de la semaine, on fait aussi une grosse valorisation. On essaye de faire un projet tous ensemble. Alors ça peut être un projet artistique, ça peut être faire décoller des fusées selon le matériel de disponible au moment T. Donc voilà, et puis aussi selon les envies des enfants, c'est vrai que le premier jour on tâtonne un petit peu parce que on sait pas quel public on va accueillir, etc. Et au fur et à mesure de la semaine, on a des enfants qui reviennent tous les jours parce que ben ça leur fait plaisir qu'on s'occupe d'eux, qu'on fasse des activités avec eux, etc. Donc en général, le premier jour c'est un peu compliqué, mais après ça se passe bien et les enfants repartent plutôt ravis. En plus, on essaye de faire des choses très visuelles avec lesquelles ils peuvent repartir chez eux, avec du matériel qui est facile à trouver et qu'on a certainement tous dans nos placards. Donc ça, c'est vraiment l'essence des petits débrouillards, c'est de faire des expériences avec le minimum de matériel et en tout cas à moindre coût pour qu'ils puissent tout réaliser chez eux après quand ils rentrent chez leurs parents. L'idée, c'est que ça soit facile et qu'on puisse leur montrer des choses qui ont l'air compliquées dans les manuels scolaires, mais qui en fait sont très simples à comprendre avec des toutes petites expériences, chose que nous on a le temps de faire, que peut-être ils n'ont pas le temps de faire à l'école. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de gamins qui viennent à l'école, voilà quoi, c'est pas trop leur truc. Et là, pendant une semaine, ils font des choses, ils apprennent des choses sans s'en rendre compte. C'est ça qui est plutôt sympa sur les cités débrouillardes. On les accueille sur des après-midi entières, donc on est 5 après-midi par semaine au pied des immeubles. L'idée, c'est de faire des ateliers très différents, enfin assez différents toute la journée. Donc ils arrivent, si ça leur plaît, ils restent. Si ça leur plaît pas, on les oblige pas du tout à rester. Il y a aucune obligation. Si au bout d'une heure, ils en ont marre, qu'ils ont envie d'aller se défouler, il y a aucun souci. Donc on essaye d'intégrer aussi des jeux pour les faire courir aussi dans l'après-midi, parce que clairement 4 heures d'affilée, c'est beaucoup trop. On n'arrive pas à les garder 4 heures et c'est normal, c'est des enfants, on en est bien conscient. Donc on essaye de faire des expériences, de faire des choses un peu plus théoriques et puis après de faire des jeux pour qu'ils bougent un peu. Et en général, sur l'après-midi, on arrive à garder des gamins pendant 4 heures sur le stand sans problème, en alternant bien les types d'activités. Donc on a des choses toutes qu'on nous donne déjà au départ avant de partir en cité. On nous dit, ben voilà, vous avez tel et tel atelier que vous pouvez faire. Après, selon ce que les enfants ont envie, on peut aussi faire d'autres choses. Voilà, c'est pas du tout fermé. C'est ça qui est bien, c'est que selon les enfants qu'on a en face de nous, on va pouvoir faire des choses différentes. Et des fois, le programme, il est pas du tout respecté, mais c'est pas grave parce que l'idée, c'est qu'eux se fassent plaisir et les animateurs aussi, parce que c'est aussi important. Mais en général, voilà, ça se passe très bien et ils ont toujours des demandes. Et souvent, on introduit un concept un jour et on leur dit, ben voilà, demain, on va travailler là-dessus. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Si vous ne savez pas, ben, ce soir, on vous propose de chercher un peu et puis demain, on en discute. Et en général, ils aiment bien, alors que quand on leur demande ça à l'école, ils font toujours ça avec les pieds qui traînent. Et nous, on n'a pas de soucis, justement, parce qu'on introduit tout par le jeu, par le visuel. On les laisse beaucoup manipuler. C'est pas nous qui faisons, on leur donne les ingrédients, on leur dit, ben voilà, vous devez arriver à tel résultat, comment vous pouvez faire ? Donc ça aussi c'est quelque chose qui est sympa parce que ben ils sont pas bridés dans ce qu'ils ont envie de faire. S'ils renversent, ben c'est pas grave, ils sont là, on est dehors, on est là pour ça. On forme tous nos animateurs sur des formations initiales. L'idée c'est de leur apprendre à animer. Alors, ils ont des choses toutes faites avec des fiches, etc. Mais l'idée, c'est qu'ils sachent animer en fonction du public qu'ils ont en face d'eux. On ne va pas pouvoir expliquer un processus de la même manière à un enfant de 4 ans qu'à un collégien ou un lycéen. Donc, l'idée, c'est d'avoir comprendre comment ça se passe et essayer de trouver une solution pour lui expliquer et se mettre à son niveau. Parce que c'est vrai qu'on a des semaines, on a des enfants, par exemple, sur la forêt. J'ai eu des enfants qui connaissent rien de la forêt, qui n'ont pas mis les pieds en forêt. Et du coup, on part vraiment de zéro, donc on reprend tout, mais C'est aussi l'objectif. Si c'est pour qu'ils viennent et qu'ils comprennent rien ou qu'ils apprennent rien, ça n'a aucun sens. Donc l'idée, c'est vraiment de s'adapter aux gens qu'on a en face de nous. C'est pour ça que ben, quand on arrive sur les cités, en général, on a plein de certitudes et au final, ça ne se passe pas du tout comme on a prévu parce que ben, on travaille avec eux directement. Et puis des fois, ils nous montrent aussi des choses qu'on n'aurait pas pensé. Donc voilà, c'est très intéressant, mais que ce soit pour les enfants ou pour les animateurs, c'est très enrichissant. Alors cette année, on a choisi la forêt parce que c'était un peu spécial aussi avec le Covid. On a eu le confinement juste avant le début de l'été. Il a fallu créer des supports et des contenus pour envoyer le maximum d'animateurs. Il faut savoir que là, sur cet été, sur les trois grandes régions, donc nous, notre siège est à Maxéville, on gère les Hauts-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est. Et on est à plus de 300 actions sur l'été. Donc il fallait quelque chose d'assez carré pour tout le monde, qu'on puisse gérer au mieux. Donc c'est ce thème qui a été choisi parce qu'on a des services civiques qui travaillent sur la forêt. Donc voilà, c'était un peu l'année propice pour ça. Donc on a beaucoup axé sur la forêt. Et en plus, voilà, on est dans des années où le développement durable, etc., c'est important. Et on voulait introduire un peu ces choses-là. Sachant que les petits débrouillards, on travaille sur les sciences, mais les sciences au sens large, ça peut être de la chimie, de la physique, du développement durable, du civisme, la discrimination, etc. Vraiment les sciences sociales, on les aborde aussi. Donc voilà, c'est très large et c'est vrai que selon les enfants qu'on a en face de nous, on peut commencer sur la forêt et après faire des expériences qu'on a l'habitude de faire et qui marchent très bien, des choses qui explosent, qui débordent, enfin toutes ces choses-là, ça marche très bien quand on les a un peu perdus dans des explications sur des choses un peu théoriques, on revient un peu là-dessus et ça leur permet de manipuler. En général, ça fonctionne bien pour les garder avec nous et ils aiment bien, donc c'est intéressant.
Justement, on parlait des sciences et le fait d'utiliser des matériaux de récupération qu'ils peuvent retrouver chez eux. Est-ce que ça participe pas aussi à un sens plus large, à leur autonomie en général? Puisque là, on parle de sciences, mais comme vous le disiez, vous abordez parfois des questions de civisme, des questions de discrimination. Est-ce que, au sens plus large, votre projet, il incite pas aussi les jeunes à développer leur esprit critique en termes général, quoi?
C'est vraiment l'objectif de l'association, hein. Le premier objectif de l'association. Après, les sciences en général, c'est un prétexte pour y arriver. C'est vrai qu'on travaille aussi beaucoup sur le recyclage, etc. En ce moment, c'est quand même un sujet très important. Donc c'est des choses sur lesquelles on travaille beaucoup. Là, cette année, la forêt, ça permet aussi de parler de la pollinisation. Donc c'est pareil, leur faire comprendre que les pollinisateurs, ils sont très importants, qu'il y en a plein, et que s'ils n'étaient pas là, ben, on ne pourrait pas manger grand-chose. Ça permet de se rendre compte que... Ils sont là, mais autour d'eux, il y a tellement de choses qui se passent et qui leur échappent. Et c'est aussi ça, parce que c'est bien beau de voir des choses à la télé, mais des fois, il faut juste leur faire mettre une petite graine et ça permet de les faire réfléchir. Donc c'est vrai que des gamins, en début de semaine, il y a une guêpe qui leur tourne autour, c'est la panique. En fin de semaine, quand on leur a expliqué un peu à quoi ça servait et que finalement, si on la laissait tranquille, il nous arrivait rien, les enfants ont un autre regard sur ce qui les entoure. Et ça, c'est quand même super intéressant. On leur apprend aussi à déterminer les arbres, savoir quel est le nom de l'arbre qui est en face d'eux. Et ça, c'est pareil, c'est super parce qu'à la fin de la semaine, ils ont compris, ils se souviennent et ils montrent à leurs parents, etc. Et c'est quand même une fierté pour eux de savoir tout ça et puis de pouvoir le montrer aussi à la rentrée aux copains en rentrant. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif, c'est de leur faire... découvrir des choses qu'ils n'ont pas vues ou pas été voir avec leurs parents ou avec l'école, parce qu'on ne peut pas tout faire, hein. Clairement, c'est pas possible. Mais voilà, c'est des sujets qui nous tiennent à cœur, le développement durable, parce que on l'a vu avec le Covid, on le voit avec tout ce qui se passe autour de nous, les canicules, etc. Il y a du changement, il se passe quelque chose, et les enfants ne sont pas toujours capables de comprendre via les médias classiques qu'est-ce qui se passe, comment on peut y remédier, et des fois des choses toutes simples qui ne maîtrisent pas. Et là, ça permet de développer un petit peu cet esprit critique et cette observation de ce qui se passe autour d'eux.
comment nos auditeurs et auditrices pourraient s'informer pour savoir sur quelles prochaines actions ils peuvent inscrire leurs enfants, par exemple?
Alors, on a des pages Facebook où on peut nous retrouver. Donc, la page Facebook des Petits Débrouillards Grand Est qui reprend toutes les antennes du Grand Est. Et ici, on a la page Facebook Les Petits Débrouillards Triangle Marnais où on met tout ce qui se passe au niveau de Reims. Donc cette année, on va certainement faire des ateliers à Reims. Donc voilà, ça va être publié sur cette page-là. Après, voilà, les cités débrouillardes, c'est plutôt l'été. Avec le Covid, peut-être qu'il va y en avoir d'autres aux vacances de la Toussaint. Donc on verra comment ça se passe avec les discussions au niveau de la ville pour la suite, parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer. Voilà, on intervient aussi des fois sur du périscolaire. Donc voilà, on est en attente. Ben, voilà, c'est la rentrée pour tout le monde. On va voir qu'est-ce qui se profile pour la rentrée. Et puis c'est vrai que le Covid a rallongé des délais un petit peu sur certains projets parce qu'il fallait répondre à l'urgence de l'été. Voilà, c'est là, la rentrée s'annonce bien remplie. Donc on va voir comment ça va se passer. Avec d'autres associations, on a créé une plateforme pendant le confinement qui s'appelle Débloc. Dessus, on balance un peu tous nos contenus, nos interviews. En fait, on interviewe des professionnels. On fait aussi des tutos pour les expériences. On a eu des directs avec nos animateurs pendant le confinement. On invitait les enfants à venir en direct. On posait des questions avec des chercheurs. On a aussi des expos numériques sur Paris, etc. Voilà, il y a plein de choses dessus. Et l'idée, c'est de garder cette plateforme même post-confinement, puisque voilà, il y a beaucoup de choses et il n'y a pas que nous, il y a 17 partenaires. L'adresse du coup, c'est www.d-bloc.org.
Vous écoutez toujours Radio Primitive et l'émission Que se passe-t-il dans mon quartier? Utopia 758. Un projet proposé par le collectif Yo, un collectif que de nombreux jeunes Rémois connaissent déjà. Malgré une année 2020 compliquée, lorsque nous avons rencontré le collectif Yo dans nos studios, il débordait d'idées et d'envie.
Anaïs Jimenez, je suis chargée de développement au collectif Yo.
Donc moi c'est Thomas Nguyen, je suis compositeur du collectif Yo.
Moi c'est Alice et je suis au collectif depuis un an.
Et moi c'est Maëva et ça fait 6 ans que je suis au collectif dans la troupe des jeunes.
Alors merci à vous d'être aujourd'hui dans les studios de Radio Primitive pour nous parler précisément de Utopia 758. Alors on va bien sûr évoquer Utopia 758, que les auditeurs et auditrices comprennent de quoi il s'agit. Mais avant cela, qu'est-ce que le collectif Yo ?
Alors le collectif Yo, c'est un ensemble artistique pluridisciplinaire qui s'est créé à Reims en 2008. La particularité, c'est de créer un répertoire de création originale, opéra, opéra de poche, contes musicaux. Donc on est toute une série d'auteurs à travailler ensemble. Et puis on associe systématiquement nos créations d'actions culturelles, quelles que soient les formes qu'elles puissent prendre, ateliers petite ou longue durée, et donc est née de cette volonté une troupe de jeunes il y a 9 ans, constituée aujourd'hui de 32 jeunes qui viennent d'un peu partout de Reims et de ses alentours, et qui fêtera l'année prochaine ses 10 ans d'existence aussi.
Donc Utopia 758, c'est la création 2020. Pourquoi ce projet ? Comment il est né ? D'ailleurs, est-ce que c'est le même cheminement chaque année ou... Comment se passe cette étape de création ?
Alors oui, c'est le même cheminement, c'est un prolongement en fait. On essaye au fur et à mesure des créations du collectif Yo, et notamment des créations avec les jeunes du collectif Yo, d'avoir un rapport très collectif à l'écriture et de les impliquer le plus possible dès les premières étapes de création. Et donc Utopia 758 naît de ça, c'est un prolongement suite à Alice au Pays des Merveilles, suite à Peter Pan, pas forcément dans les thématiques, mais en tout cas dans l'approche. Et on a commencé par des réflexions autour des utopies. Qu'est-ce que c'est qu'une utopie aujourd'hui ? Comment on s'engage ? Et on a fait venir des professionnels. En fait, il y a eu ce qu'on a appelé une université des utopies qui a été créée. Et puis les jeunes ont réagi par rapport à ça, ont inventé, ont écrit des choses sur les utopies. Et on s'est servi de tout ce matériel avec Néri Catino, qui est l'auteur de cette comédie musicale, pour l'écrire.
Enfin, même nous, au début, quand on nous l'avait raconté, c'était un peu flou pour nous, parce que déjà, c'est un univers qu'on travaille pas trop, tout ce qui est science-fiction. Et dans la tête de Néri, ça paraissait super clair, et nous, on était là, ouais, t'inquiète, on comprend. Mais en fait, une fois qu'on est dedans, on ressent tout de suite les émotions de nos personnages, qui on est, et du coup, on comprend beaucoup mieux l'histoire, et c'est vrai que l'expliquer, c'est toujours compliqué. Et on dit, venez voir, au pire, vous comprendrez quand vous verrez.
On ne peut pas avoir un petit synopsis
même. Si, moi je vais vous la résumer rapidement. En fait, c'est une histoire de confiné, finalement, cette Utopia 758. Ça se passe dans un avenir plus ou moins proche, plus ou moins lointain, on ne sait pas trop. C'est 4 spationautes qui sont en mission sur une cité artificielle, Utopia 758, cité de ravitaillement entre deux planètes. Et en fait, la mission est abandonnée par la Terre, et ces 4 spationautes avec leurs équipes se retrouvent en autonomie. Et il y a une, donc ils vont au départ prendre ça un peu comme un jeu, et avec leurs équipes vivre ensemble sur cette base. Et en fait, il y a une sorte de puissance occulte supérieure qui va se nourrir de toutes les pensées en fait positives ou négatives de ces spationautes, et qui va grossir pour en fait les enfermer on est un peu dans une dystopie, pour les enfermer et les isoler, les contraindre en fait, exercer ce pouvoir un peu malveillant sur eux. Et dans tout ça, il y a une petite bande de comment on appelle ça ?
Nous
on appelle ça des cailles. Alors il y a des résistants, qui se regroupent pour échapper à ça. Il y a des caïcous qui sont des petits dealers de rêves, parce qu'on va s'échapper via le rêve.
Enfin, même nous au début, quand on nous l'avait raconté, c'était un peu flou pour nous, parce que déjà c'est un univers qu'on travaille pas trop, tout ce qui est science-fiction. Et dans la tête de Néri, ça paraissait super clair, et nous on était là, ouais, t'inquiète, on comprend. Mais en fait, une fois qu'on est dedans, on ressent tout de suite les émotions de nos personnages, qui on est, et du coup on comprend beaucoup mieux l'histoire, et c'est vrai que l'expliquer, c'est toujours compliqué, et on dit, venez voir, au pire, vous comprendrez quand vous verrez.
Alors, l'écriture, ça s'est fait. Il y a des ateliers qui ont débuté avant le confinement.
Non, en fait, tous les ans, c'est vrai qu'on essaie on a différents partenaires. Là c'était un gros projet, puisqu'on avait beaucoup de structures partenaires, donc l'Opéra de Reims, la Maison Commune notamment, qui nous accueille depuis de longues années. On travaillait aussi avec le Conservatoire, le CROUS, et les maisons de quartier, comme tous les ans, où on fait des ateliers autour de la scénographie et des costumes aussi, des ateliers autour des costumes.
En fait, les objectifs, c'est vraiment de créer une dynamique collective et de rassembler les différents publics. Donc nous, on a notre troupe de jeunes qui est plus dans une approche de sensibilisation parce qu'ils pratiquent depuis des années. Donc on avance avec eux en fonction de leur niveau, des exigences d'apprentissage. On n'est pas non plus dans de l'école parce qu'on n'est pas dans de l'enseignement spécifique, mais en tout cas, on n'est plus dans la sensibilisation. Par contre, on essaye de fédérer autour de nous d'autres publics qui n'ont pas forcément accès aux pratiques artistiques, ce qui était au départ la volonté de création de cette troupe. Et donc, c'est avec ces problématiques-là et ces envies-là, ces enjeux, qu'on va, notamment au sein des quartiers de Reims, en l'occurrence cette année Croix-Rouge et Cernay Europe, pour faire découvrir des pratiques artistiques et les impliquer dans un processus collectif de création. Et donc, cette année, on a proposé aux habitants des ateliers de création de costumes, d'accessoires et d'éléments de scénographie. Et donc, par chance, ces ateliers ont eu lieu parce que ça a eu lieu en février et le confinement a commencé en mars. Donc, on a pu avoir cette première étape de travailler avec eux. D'ailleurs, Alice et Maëva, qui sont là, sont venus les rencontrer, parler de la troupe, parler du spectacle et voir aussi les travaux qui avaient été réalisés pour leur spectacle. Donc, c'est des dynamiques collectives qui sont très intéressantes, très enrichissantes pour tout le monde. Et ce projet avait vraiment cette volonté, il l'a toujours, hein, c'est juste qu'il va être adapté et il aura lieu à un moment sur scène. Mais c'est un peu frustrant, après cette dynamique qui a été mise en place, de s'arrêter.
On voulait aussi proposer des temps d'échange, en fait, de découverte des métiers du spectacle vivant. Donc, que ce soit. De vraiment découvrir tous les petites mains, en fait, qu'il y a derrière tous ces auteurs. Aussi l'occasion de faire visiter des lieux de la culture, notamment l'opéra, auquel on peut être. Les publics ne sont pas tous très très à l'aise avec ça, donc c'est un peu l'occasion, en plus de créer du lien, de faire redécouvrir toutes ces structures-là.
Alors, dans les petites notes qu'on m'a données, les petits bouts d'informations que j'ai pu avoir sur le projet, il était question de la création d'un groupe de 20 jeunes danseurs. Qui, plus dans des dynamiques de danse contemporaine et moderne jazz, c'est des choses qui se sont faites, ou est-ce que c'est les jeunes qui sont déjà dans le collectif? Est-ce que c'est des jeunes en plus?
C'est des jeunes en plus. En fait, ça rassemble au niveau des interprètes cette comédie musicale. Donc là, je parle pas des personnes qui ont fait les décors, les costumes, tout ça. Sur scène, ça rassemble 90 jeunes. Donc c'est assez considérable. Nous, on n'en a que 32, donc les autres, c'est des groupes en plus. C'est 20 jeunes, effectivement, c'est donc du coup ça rassemble d'autres jeunes, un tout petit peu plus âgés dans la moyenne d'âge que notre troupe. Et en fait, il y a eu une séance et après il y a eu le confinement. Donc pour eux, c'est peut-être pour eux que c'est le plus frustrant parce qu'ils arrivent dans un projet qu'ils attendent depuis plus de 6 mois, je pense, à partir du moment où ils ont eu l'information, et ils font une répétition et ça s'arrête.
Comment on mixe ces groupes, donc on va dire le groupe permanent du collectif Fio, et peut-être que les filles ont des bouts de réponse, avec des groupes qui viennent de l'extérieur, puisque là c'est pas des successions de spectacles les uns après les autres, il faut faire travailler tout ce monde-là ensemble. Comment ça marche, quoi?
En fait, ça se fait assez naturellement, parce que comme on partage un projet commun, on sait que par exemple, le chœur du conservatoire va nous apporter beaucoup de choses niveau chant. Et puis on prend toujours le temps de tous s'écouter. Et quand eux, on les écoute, on voit la justesse, qu'eux, ils sont beaucoup plus dans le chant. Et puis quand eux, on voit leurs yeux qui brillent quand ils nous regardent aussi faire du théâtre, mélanger le chant. Enfin, je sais que moi, j'ai eu beaucoup de retours positifs après. Ils venaient nous voir, ils disaient « c'est génial, on est trop contents de faire ça ». Puis c'est aussi des enfants, donc s'amuser dans un projet comme ça, pour eux, c'est une opportunité et c'est à saisir.
Il y a une possibilité de rester longtemps dans le collectif, ou il y a forcément une petite porte de sortie pour laisser de la place aux autres, peut-être, tout simplement?
Il y a aussi le fait qu'à partir d'un certain âge, quand on a des études, etc., c'est pas forcément facile de rester dans un projet comme ça, parce que ça nous prend du temps, quand même. Et puis il faut laisser aussi de la place pour d'autres, laisser un peu l'opportunité... laisser la chance de pouvoir participer à ça.
Pour les raisons que tu viens de citer, souvent les jeunes partent après 18 ans, après ce qui correspond à l'étape du bac, puisqu'ils partent dans leurs études supérieures et quittent la ville de Reims. Donc après, on continue à avoir des nouvelles, mais ils quittent l'activité artistique. Par contre, ça arrive que certains d'entre eux veuillent devenir professionnels. Et là, l'application est un peu différente, parce qu'on les accompagne déjà dans cette direction, on les conseille, on est présent pour eux, parce que ça peut faire partie de la continuité de la troupe. Et puis, on peut aussi les faire intervenir différemment. Par exemple, il y en a certains de l'ancienne troupe, de l'ancienne génération de jeunes, certains qui ont déjà animé des stages, donc qui passent un statut presque professionnel puisqu'ils sont rémunérés pour, d'autres qui sont venus pour travailler sur des costumes, parce qu'il y en a une qui a fait des études de réalisation de costumes, donc qui a travaillé avec notre costumière. Donc il y a cette possibilité de continuité après, en fonction de ce que chaque jeune a envie de faire. C'est pas 18 ans, on arrête. Et d'ailleurs, pour ce spectacle en particulier, on a même fait revenir certains anciens pour qu'ils participent aussi à cette pièce un peu plus ambitieuse que ce qu'on avait fait jusqu'à présent.
Alors, on a parlé des ateliers donc, qui ont dû être mis en stand-by. Que s'est-il passé pour le collectif Yo pendant le confinement déjà? Est-ce que vous avez réussi néanmoins à mettre en place des choses? Et puis, maintenant, quel est le calendrier, le programme pour le reste de l'année 2020?
Alors, en fait, on s'est dit, donc nous, le collectif Yo professionnel, on a eu un peu cette chance d'avoir sorti notre création avant. Donc, on était dans une période un peu plus calme. Il y a quelques annulations de concerts, de spectacles, mais ce qui n'était pas jusqu'à présent catastrophique. Je dis jusqu'à présent parce qu'on a toujours des problèmes de visibilité. Mais par contre, on s'est tout de suite posé la question de la mobilisation de tous les jeunes sur ce projet Utopia. Et donc, on a mis en place, on a essayé de mettre en place une sorte de suivi autour du projet, notamment pour la troupe et pour les jeunes du conservatoire. On a créé une plateforme en ligne avec des maquettes de toutes les musiques, avec même quelques extraits de chorégraphie. Qui nous servait de plateforme de travail, mais surtout de pouvoir garder une certaine dynamique autour de ce projet.
Après, là par contre, c'est vraiment le travail chacun chez soi. Moi, je sais que des fois, quand j'allais sous la douche, je mettais le playback et puis hop, je chantais mon solo. Puis je le faisais en boucle. Enfin, c'est bien, il y a des petites chorés. Il y a Juliane qui aide sur la chorégraphie. Elle nous a fait une petite vidéo pour faire continuer à bouger un peu notre corps. Enfin, voilà, ça continue quand même.
C'est vrai qu'une fois de temps en temps, on met la musique et puis déjà ça fait du. Enfin, personnellement, ça me faisait plaisir parce que ça me faisait un petit peu repenser à la troupe et tout ça. Et comme ça, on perd pas non plus ce qu'on a travaillé pendant plusieurs mois, mais c'est vrai que c'est pas pareil.
On s'adapte, ça va donner naissance à la création d'un podcast, d'une série podcast Utopia en version série, donc audio. Donc ça, c'est en plus, c'est intéressant comme format. C'est un format qui permet de travailler le chant et le texte. Très précisément, puisque ça demande un apprentissage précis de l'enregistrer, que ce soit dans le jeu ou dans l'interprétation. Après, on repassera à la scène dès que ce sera possible avec toute l'équipe sur un plateau, mais on voulait pas faire du à peu près, donc on s'est
donc
dit...
Donc pas de date pour l'instant, pour le spectacle par exemple?
Pas de date ferme. On a les périodes, on a déjà les options sur tout le calendrier en fait de l'année prochaine, reprise du spectacle comprise aussi. A priori, ça, on espère que ça devrait être bon, mais on reste prudent.
Donc, si on désire suivre les aventures du collectif Yo, connaître les dates possibles du spectacle, ouais, par exemple, ou avoir les liens des podcasts qui vont être diffusés et créés, comment fait-on? Y a-t-il un site? Y a-t-il un endroit où on peut trouver tout cela?
Pour nous suivre, le site internet du collectif, c'est collectif, www.collectif-io.fr. Et après, il y a les liens vers les réseaux sociaux.
Le groupe Pélican mène une tâche essentielle, libérer la parole des enfants exposés aux violences conjugales. Sur l'ensemble du territoire de Reims, cette action, menée par le foyer Le Renouveau et de nombreux autres partenaires, comme par exemple l'association Parole de Parents, aide les jeunes enfants à surmonter des parcours familiaux difficiles.
Donc, Joëlle Chauvière, je suis présidente de l'association Foyer Le Renouveau, qui est une association qui date de 1970 sur Reims et qui gère à ce jour un centre maternel de 24 lits qui accueille des femmes avec des enfants, dont forcément un qui a moins de 3 ans, hein, puisque c'est au titre de la protection de l'enfance et le centre maternel est essentiellement financé par le département. C'est vrai que les professionnels du centre maternel étaient confrontés, bien sûr, à l'accueil de femmes qui ont subi des violences et dont les enfants avaient des répercussions. C'était quelque chose qui était mesuré et on avait bien perçu qu'il y avait là un besoin de prise en charge des enfants. Les femmes, le dispositif envers les femmes est relativement maintenant assez clair. Ce qui est des enfants qui n'ont pas forcément subi de violences physiques mais qui ont été exposés, là il y avait vraiment un besoin. Et c'est à partir de ce besoin que le projet s'est monté donc en partenariat avec l'association Parole de Parents qui aussi était confrontée à ces mêmes problématiques des enfants.
Donc, je suis Marie-Françoise Etzika, présidente de l'association Parole de Parents, qui a pour vocation essentielle d'accompagner les familles en difficulté, en situation de crise. En situation de crise parce que c'est une situation particulière où on peut mettre à profit les difficultés des membres de la famille et les amener à travailler leurs difficultés. Mais c'est de ces problématiques familiales, on a été amené à créer des actions collectives comme entre autres partager avec l'association Renouveau les groupes de parole pour les enfants exposés aux violences conjugales, mais aussi on s'intéresse aux mamans isolées, les mamans solo qui ont leurs difficultés d'éducation auprès de leurs enfants. On accompagne les interventions en milieu scolaire, oui, surtout.
Les cafés des parents.
Les cafés des parents, les ateliers des parents. Voilà.
Je suis Marine Lagile, je suis psychologue à l'association Parole de Parents.
Donc, je suis Jean-Noël Jocmans, éducateur spécialisé au centre maternel qui intervient sur le groupe Pélican.
Donc, je suis Anne-Sophie Rollin, je suis référente de l'espace famille à la maison de la famille de la ville de Reims.
Et Sophie Plouchard, chargée de développement pour l'association Foyer Les Renouveaux, et je suis en charge de la coordination du projet Pélican.
Donc, on est aujourd'hui dans le quartier Croix-Rouge, dans les locaux du Renouveau, enfin une partie, je suppose, des locaux du Renouveau. On vient parler donc du groupe Pélican, qui est une action collective qui s'est montée collectivement et qui bénéficie d'un suivi dans le cadre de politique de la ville. Donc je pense que les auditeurs et auditrices ont commencé à comprendre de quoi il s'agissait, mais s'il fallait vraiment présenter spécifiquement le groupe Pélican et faire peut-être un pas en arrière, ce qu'on a commencé à faire pour parler de l'historique de la création de ce groupe, par où on commence ?
L'association Foyer Le Renouveau, comme a pu l'indiquer Madame Chauvière, a toujours eu une attention particulière auprès des femmes et par extension de leurs enfants, et notamment des femmes en difficulté. Et les femmes violentées arrivent souvent au sein du centre maternel. On a pu remarquer qu'il y avait un véritable manque pour les enfants qui se trouvent dans des situations de violence intrafamiliale. Les mamans peuvent être prises en compte, les papas qui peuvent aussi être violentés. Le parent violent peut aussi se faire bénéficier d'un certain nombre de suivis. Les enfants, en revanche, il n'y avait rien de prévu pour eux. Donc on a estimé qu'il pouvait être intéressant d'investiguer de ce côté-là et on a pu présenter ce projet à un certain nombre de partenaires, à la fois opérationnels comme Parole de Parents et la ville de Reims, et à des partenaires financiers qui nous ont soutenus assez rapidement pour monter des groupes qui permettent aux enfants de se réunir et de comprendre que les violences vécues à la maison peuvent être un sujet dont on a le droit de parler, que c'est vécu aussi dans d'autres familles et qu'ils peuvent, par cette mise en commun et mise en groupe, trouver les moyens de sortir de cette spirale et pourquoi pas plus tard ne pas reproduire ces situations de violence. Donc, en un mot, pourquoi on a appelé ce groupe Pélican ? L'idée, c'était de trouver un terme qui soit générique et que pour les enfants, ça ne soit pas trop lourd à porter que de dire « je vais dans un groupe qui parle des violences conjugales ». Et on a essayé de trouver un terme qui puisse aussi s'appliquer aux différentes catégories d'âge d'enfants qu'on reçoit, puisqu'on a des enfants qui peuvent avoir 3 à 4 ans jusqu'à une dizaine d'années. Donc l'idée, c'est du pélican, c'est un oiseau qui a une poche sous son bec, qui est un véritable réceptacle et qui lui permet de capturer des aliments, de se nourrir. Pour nous, ce bec, c'est un lieu de secret parce qu'il est fermé, il est bien défini et il permet de recevoir la parole de l'enfant, des petits mots, des petits objets, des secrets que l'enfant va confier au pélican.
Il y a un vrai pélican.
Enfin, et il ne va confier... Des étudiants de l'ESA, de l'école de design de Reims, ont construit pour nous un pélican en bois et en d'autres matériaux, qui est un vrai repère pour les enfants, qui garde leurs secrets, leurs petits mots, et qui est un lieu donc, de sécurité. Et ça permet aux enfants de reconnaître aussi cet oiseau qui, au bout d'un moment, peut s'envoler et s'éloigner de situations difficiles et prendre de la distance avec la situation familiale compliquée.
Alors, comment se déroulent ces groupes de parole ? Qui les anime ? Car je suppose qu'il y a quelqu'un qui les anime. Est-ce que c'est dans différents endroits de Reims ? Est-ce qu'on est dans le lieu aujourd'hui où se déroulent ces groupes ?
C'est dans un seul lieu, la maison de la famille, qui nous accueille avec la référente famille de la maison de la famille. Et ça se déroule sur 7 séances. 7 séances à raison d'une séance par semaine, d'une heure, le mardi soir.
Et concrètement, comment cela se passe ? C'est une parole complètement ouverte. Est-ce qu'il y a un canevas, en fait, pour amener les enfants à la parole ?
On a des objectifs dans notre tête. C'est le canevas que vous évoquez. L'objectif, c'est que l'enfant puisse effectivement exprimer ce qu'il a vécu, s'il a envie de l'exprimer. C'est de reconnaître, que l'enfant se sente reconnu dans sa souffrance à l'intérieur de cette violence familiale. En même temps, l'aider à prendre la reconnaissance de l'autre comme existant, parce que ce qu'il ne voit dans sa famille, c'est que souvent l'autre n'est pas reconnu comme tel, et donc ils ont beaucoup de mal à apprécier cette l'altérité. Apprendre à reconnaître l'autre, respecter l'autre, le respect de la parole de l'autre, savoir s'écouter, savoir se contrôler, ne pas taper quand il y a des différends, savoir faire appel à autrui si besoin est, on leur donne quelques codes de téléphone, etc. pour pouvoir éventuellement intervenir en cas de difficulté. Mais surtout, ce qu'on évoquait tout à l'heure ensemble, c'est reprendre confiance en eux, vérifier au travers de cette dynamique de groupe leurs compétences, leurs ressources et ressortir plus confiant finalement.
Et est-ce que le suivi des enfants qui donc font partie de ces groupes continue au-delà des 7 séances l'arrivée d'autres professionnels dans leur parcours ?
Notre association peut prendre en charge ensuite de façon individuelle, si c'est nécessaire, certains de ces enfants.
Alors, vu qu'on a un éducateur spécialisé et une psychologue autour de la table, je suppose que vous êtes aussi impliquée dans cette action groupe Pélican. Comment ? Tout simplement.
Alors, la configuration est assez variable. Ce qui se passe, c'est qu'en général, il y a deux professionnels de parole de parents et deux professionnels du centre maternel qui sont là dans la guidance pour permettre l'ouverture de parole auprès des enfants. Et le groupe d'enfants peut aller de 4 à 6 enfants. Pour le moment, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Et comme il a été dit précédemment, c'est les enfants finalement qui font vivre le groupe. Nous sommes des facilitateurs avec toutes les vertus et objectifs qui ont été déclinés précédemment, à savoir reprise de confiance, ne pas banaliser la violence subie, le fait de partager entre eux, hein, puisque ça c'est quelque chose d'essentiel, et c'est pour ça qu'il a été voulu un groupe finalement. que les enfants puissent partager entre eux.
Donc moi je participe aussi également aux 7 séances du groupe et puis étant employée à l'association Parole de Parents, je peux accompagner les enfants qui en présentent le besoin à la fin des groupes par le biais de l'association et par le biais de l'accompagnement de la famille. Et avec ma collègue Marie-Françoise, on évalue aussi toutes les demandes du groupe qui arrivent à l'association, on reçoit les familles et on évalue si les enfants et la famille peuvent effectivement adhérer au groupe, si le temps psychique de la famille, le temps de la maman, le temps de l'enfant leur permet d'adhérer au groupe et leur permet de pouvoir verbaliser les choses. Est-ce que ce qui est important pour nous, c'est de respecter ce temps, tout ce travail de mise en mots, de réparation et d'accompagnement pour toute la famille.
Ma place dans le projet, donc à la base, c'était la mise à disposition des locaux par la ville de Reims pour l'accueil du groupe parce que ça s'y prêtait bien. Et puis on a réfléchi et il a été proposé que pendant ce temps, parce qu'une heure c'est très court, donc les mamans ne pouvaient pas forcément repartir chez elles, elles pouvaient pas, puis elles n'allaient pas attendre comme dans une salle d'attente de médecin, c'était quand même un petit peu délicat. Donc on a proposé que durant l'accueil des enfants, il y ait un accueil des mamans ou des papas. Les violences conjugales ne touchent pas que les femmes, que le parent qui accompagnait l'enfant puisse rester au sein de la maison de la famille et être accueilli. Donc on a mis en place un temps où les parents peuvent venir échanger autour de la parentalité, autour du quotidien. Ce n'est pas un temps d'échange autour des violences conjugales, ce n'est pas l'objectif de ce temps-là pour les parents. Par contre, c'est un temps où on peut venir parler de son quotidien, de sa parentalité, de ce qui se joue pour les enfants, de comment on se sent. Et quelque part, c'est un peu un temps pour soi, dans la journée aussi, pour le parent.
Alors, l'année 2020 a été sans doute un peu compliquée. Comment le projet s'est adapté?
Alors, ou pas. On devait démarrer un groupe une semaine après l'annonce du confinement. Donc, les choses ont été mises en stand-by. On a pu, grâce au soutien de la ville de Reims, redémarrer très rapidement mi-mai, remettre en route ce groupe puisqu'on a pu être accueillis à la maison de la famille qui nous a été ouverte exclusivement en application d'un protocole sanitaire pour accueillir les familles. Et dans l'intervalle, Parole de Parents a pu continuer un contact régulier avec les familles pour maintenir ce lien, ne pas les laisser seuls dans la nature, si je peux dire, et permettre qu'effectivement on puisse mener ce groupe qui a pu donc se tenir de mai à juin cette année.
Et pour la fin, le dernier trimestre de l'année 2020 et les envies pour 2021?
On continue à programmer des groupes, on en programme un qui se tiendra de novembre à décembre 2020 et on espère pouvoir continuer à poursuivre notre action sur les années futures. On croit en notre projet et on sait qu'il est tout à fait légitime et on espère pouvoir continuer à trouver les subventions qui nous permettent aujourd'hui de le mener. Il n'y a pas encore d'investissement réel et pérenne sur ce type d'action. Donc il faut toujours faire appel à la subvention auprès des collectivités, auprès de l'ARS, auprès de la CAF, de tout un tas de structures qui nous apportent leur soutien.
Il y a quand même une difficulté particulière aussi là, c'est que c'est un sujet qui existe depuis toujours, parce que les enfants, depuis que les violences conjugales existent, ont été exposés aux violences conjugales, mais c'est aussi un sujet dont on ne parle que depuis très récemment. L'impact que ça peut avoir sur eux, sur leur développement, sur leurs interactions aux autres. Et du coup, il y a encore un grand travail de sensibilisation à faire auprès des familles et auprès des professionnels qui accompagnent les familles pour qu'ils puissent orienter les enfants vers le groupe.
Justement, en parlant des personnes qui peuvent orienter les enfants ensuite vers le groupe, c'est possible de balayer un peu l'ensemble des professionnels qui flèchent, le mot est sûrement moche, et les enfants vers vous?
Les orientations des enfants et des familles vers le dispositif doivent se faire principalement par des services d'assistants sociaux, notamment du département. Dans la Marne, ce sont les circonscriptions sociales départementales. Mais ça peut également être un référent famille dans une maison de quartier, dans un CCAS, ça peut être également l'hôpital, des associations qui sont nos partenaires au quotidien, qui traitent aussi de ces publics, des personnes violentées ou des personnes violentes. Donc on a le CIDFF, le MARS, et ça peut être également la justice, toutes sortes de structures, l'éducation nationale également, qui vont avoir face à elles des enfants ou des parents qui vont faire remonter ces situations, qui vont parler et oser évoquer ces situations de violence conjugale.
Il y a quand même une campagne d'information et de sensibilisation des professionnels qui sont censés effectivement nous adresser les enfants. Mm-hmm. Donc il y a quand même des supports de communication, des rencontres, une campagne de communication assez importante qu'il faut sans arrêt recommencer parce que rien n'est jamais gagné, mais il y a eu un gros travail de fait autour de ça.
Pour terminer, est-ce que vous pouvez remarquer un changement rapide une fois que la parole est un peu libérée au sein des groupes par rapport aux enfants? Est-ce qu'il y a des... Alors bien sûr, il y a des choses qui s'inscrivent forcément dans le long terme, mais lors du développement du jeune, mais est-ce qu'il y a des choses qu'on peut appréhender facilement?
Rapidement, au sein du groupe, nous on voit le groupe évoluer à chaque séance. Après, c'est plutôt les familles, les mères qui me font part des changements de comportement observés au domicile. Parce que la finalité, c'est vraiment ça, c'est la vie de famille et comment elle évolue et comment l'enfant peut se poser. Et après avoir entendu des choses, après avoir pu se libérer de certaines choses, c'est essentiellement ça.
En même temps, c'est des graines qui sont semées. Donc, il y a le court terme et puis il y a l'après. On croit qu'effectivement, ces graines semées ont de l'importance et que la parole qui se libère, la mise en mots, c'est fondamental pour que l'enfant puisse continuer. Salut.
Merci beaucoup à vous.
De cet épisode 1 de Que se passe-t-il dans mon quartier. À bientôt pour un épisode 2 qui vous proposera de découvrir 3 autres projets, 3 belles aventures humaines. Et d'ici là, restez à l'écoute de Radio Primitive.